VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30, temps universel, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 juillet 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, l'ONU a nommé 3 experts pour enquêter sur les violences au Kasaï. Au Nigeria, l'on est toujours sans nouvelles de la dizaine de membres d'une équipe d'exploration pétrolière enlevée dans le nord-est du pays. La Chambre des représentants a adopté hier un projet pour des sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Kiabadou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Un hélicoptère de la mission des Nations Unies au Mali s'est écrasé accidentellement mercredi dans le nord du pays d'après un responsable de la MINUSMA à Gao, sans donner de bilan. Selon ce responsable onusien, rien ne permet à ce stade de dire que l'appareil a été abattu ou qu'il a été victime de tirs. Les Nations Unies ont nommé 3 experts internationaux pour enquêter sur les violences dans la région du Kasaï en RDC. Abdourahmane Dia.
Cette annonce intervient au terme d'un compromis avec Kinshasa qui a refusé une mission indépendante. L'équipe est composée d'un Sénégalais, d'un Canadien et d'une Mauritanienne. Ils vont enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme dans la région du Kasaï. Le Conseil des droits de l'homme a adopté le 22 juin une résolution de compromis avec l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Ces 3 entités souhaitaient une mission indépendante, mais Kinshasa, qui s'y opposait, avait obtenu le soutien des pays africains. La résolution demande à la RDC de coopérer avec les experts qui devront en retour partager leurs informations avec Kinshasa et les auteurs des crimes dans le Kasaï seront jugés par la justice congolaise. Depuis 10 mois, la région du Kasaï est secouée par des troubles qui ont fait plus de 3000 morts et 1 400 000 déplacés, d'après des chiffres rassemblés par l'Église catholique congolaise.
Le Congo a répondu à la France sur la situation dans la région du Pôle. Paris s'est déclaré lundi préoccupé par la situation dans cette région, lançant un appel aux autorités de Brazzaville pour établir rapidement les conditions qui permettront la tenue des élections dans toutes les circonscriptions concernées. Le gouvernement a été responsable et prudent en reportant les élections dans le Pôle, a répondu Thierry Mungala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le parti présidentiel a remporté le premier tour des élections locales et législatives du 16 juillet dernier. Environ 10 employés du service de géologie de l'université de Maïdougouri, faisant partie d'une équipe d'exploration pétrolière, ont été enlevés dans le nord-est du Nigeria. C'était lors d'une embuscade attribuée à Boko Haram. Le point avec Jacques Aristide.
La compagnie pétrolière nationale du Nigeria avait engagé l'équipe pour mener des travaux de recherche dans le bassin du lac Tchad. D'après un porte-parole de la compagnie, les chercheurs en question ont été kidnappés autour du village de Jibi à Magoumeri dans l'état de Borno après un affrontement entre les agents de sécurité qui les accompagnaient et de présumés combattants de Boko Haram. Des efforts sont en cours pour traquer les ravisseurs et retrouver les personnes enlevées. L'équipe de prospection travaillait dans cette région de Magoumeri depuis un mois. Pour un employé de l'université de Maïdougouri, il est clair que Boko Haram a étudié les mouvements des membres de cette équipe avant de les attaquer. Boko Haram, qui mène une insurrection sanglante depuis 2009, utilise les enlèvements comme une arme de guerre dans le conflit. Des milliers de femmes et de filles ont été kidnappées pour être mariées de force ou servir de bombes humaines, tandis que les hommes et les garçons ont été forcés à se battre contre l'armée.
2 gendarmes camerounais ont été tués ce mercredi dans une attaque perpétrée dans l'extrême nord du pays par des djihadistes nigérians de Boko Haram. L'attaque s'est déroulée à Sangmé, une localité de l'extrême nord située à 20 km de Fotokol, ville frontalière du Nigeria. La région de l'extrême nord du Cameroun est confrontée à de fréquentes attaques, dont des attentats suicides attribués au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. 5 hommes, dont 3 militaires, ont été arrêtés dans le cadre de l'attaque de l'école de police d'Abidjan, perpétrée la semaine dernière, 2 jours avant l'ouverture des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé la police. Deux nouveaux casques bleus marocains ont été tués mardi à Bangassou, dans le sud-est de la RC, à autant pour moi, a indiqué mardi dans la soirée l'ONU, deux jours après la mort d'un autre soldat de la paix, également marocain. Nous y reviendrons dans la partie magazine de ce journal. Au Zimbabwe, les nouveaux pouvoirs judiciaires du président suscitent une levée de boucliers. Ces textes donnent à Robert Mugabe la possibilité de nommer les principaux juges sans consultation. L'opposition dénonce une violation de la Constitution. Morgan Guiriek nous en dit plus.
Un projet de loi adopté hier permet au chef de l'État de nommer le président de la Cour suprême et son adjoint. Une attaque contre l'État de droit s'insurge le MDC, principal parti d'opposition. Il estime que cette loi va concentrer les pouvoirs dans les mains du président, alors que les citoyens ont voté pour démocratiser le régime. Il s'agit de la première modification de la Constitution qui prévoyait que le président zimbabwéen nomme les juges suprêmes sur recommandation d'une commission. La ZANU-PF, parti du président Mugabe, peut s'appuyer sur sa large majorité au Parlement pour faire passer des lois. 182 députés sur 270 ont ainsi voté en faveur de ce changement constitutionnel.
Pékin a lancé mercredi un avertissement au Botswana qui prévoit d'accueillir le mois prochain le Dalai Lama, bête noire du régime communiste, et exhorter le pays à respecter les intérêts fondamentaux de la Chine. Le chef religieux tibétain qui vit en exil en Inde doit s'exprimer à Gaborone, la capitale botswanaise, lors d'une conférence spirituelle prévue du 17 au 19 août. Londres a assoupli ses recommandations aux touristes voyageant en Tunisie, mettant fin à sa consigne d'annuler tout voyage non essentiel à Tunis et dans les principaux sites touristiques. Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a déclaré que son homologue de Tripoli, Fayez al-Sarraj, lui avait demandé l'aide de navires pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Cette requête des autorités de Tripoli est à l'examen du ministère de la Défense et les options seront examinées avec les autorités libyennes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier un projet de sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ce qui a provoqué la colère de Moscou et l'inquiétude des Européens. Le point avec Yacouba Ouidraogo.
Le projet comporte des sanctions contre la Russie pour l'annexion de la Crimée et des ingérences en Ukraine. La proposition des sanctions concerne aussi l'Iran, notamment les gardiens de la révolution, accusés de soutenir le terrorisme, et la Corée du Nord pour ses tirs de missiles. La proposition de loi doit être adoptée par le Sénat et validée par le président Donald Trump avant que les sanctions ne soient effectives. Si ce texte passe au Sénat, le président Donald Trump pourrait aussi mettre son veto. Malgré tout, le ministre adjoint aux affaires étrangères iranien, Abbas Agarashi, estime que cela peut influencer négativement l'application de l'accord sur le nucléaire. À Moscou, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, met en garde contre une possible destruction des perspectives de normalisation des relations avec la Russie. De Paris à Berlin, en passant par Bruxelles, l'initiative de la Chambre des représentants passe très mal.
Israël a répliqué sèchement mercredi à des déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan sur les mesures de sécurité à l'esplanade des mosquées, affirmant ne pas avoir à recevoir des leçons de la Turquie. Monsieur Erdogan a jugé bonne, mais pas suffisante, la décision d'Israël d'enlever les détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade de mosquées à Jérusalem-Est. En Inde, les corps des 17 membres d'une même famille ont été retrouvés lors du reflux des eaux qui ont inondé leur village dans l'état du Gujarat, où les pluies torrentielles de la mousson ont fait plus de 100 morts et entraîné l'évacuation de plus de 36 000 personnes. Une chaîne de télévision française s'est vue infliger mercredi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel une amende de 3 millions d'euros pour la diffusion à mai d'un canular homophobe qui avait suscité près de 40 000 plaintes des téléspectateurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel français a décidé de sanctionner ainsi la chaîne C8 du groupe Canal+, qui avait diffusé la séquence incriminée de son animateur populaire Cyril Hanouna, déjà épinglé dans le passé pour des dérapages sexistes ou homophobes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
C'est désormais officiel, un port va exister à Kribi au Cameroun. Bolloré, le transporteur CMA et le groupe chinois de BTP viennent de signer avec l'État camerounais les contrats de concession du terminal à conteneurs du port aux eaux profondes de Kribi. L'exploitation leur a été attribuée pour 25 ans en août 2015. Une bonne nouvelle pour les habitants de Kita, situés entre Kaye et Bamako. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Ouleseini Maïga, a signé samedi dernier à Paris un accord de financement pour la réalisation d'une centrale solaire pour un coût total de plus de 50 milliards de francs CFA. Ce projet constitue un nouveau coup d'accélérateur au programme d'urgence sociale. Les entreprises chinoises présentes en Côte d'Ivoire ont désormais une chambre de commerce pour favoriser les échanges et les contrats avec les organismes ivoiriens et renforcer la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par les Jeux de la francophonie à Abidjan.
Au stade, Félix Houphouët-Boigny, médaille d'argent pour la malienne Kenneth Traoré au concours féminin de lancer du javelot avec un jet à 49,85 m. Sa compatriote Jenny Boudante remporte le 400 m. En 52 secondes et 23 centièmes. La Burkinabé Marthe Koala remporte le concours du saut en longueur avec un saut à 6,52 m devant la Camerounaise Marlene Gongoa avec un saut à 6,34 m. Le décathlon chez les hommes se poursuit en ce moment. Et puis, ce sont les quarts de finale du tournoi féminin de basketball. Les Maliennes éliminées par les Québécoises 60 à 80. À suivre Guinée, Wallonie et Sénégal, Côte d'Ivoire. En football, les Sénégalais en tête de leur groupe après leur nette victoire 3-0 contre le Gabon. En judo, l'Ivoirienne Zuleha Abzeda Dabone en finale des moins de 57 kilos. Sa compatriote Fatim Fofana est aussi dans le dernier carré chez les moins de 70 kilos, tout comme la Burkinabé Aguiratou Kabore. Le Camerounais Frank Bell Nginjel se hisse en demi-finale des moins de 80 kilos chez les hommes.
Transfert en football.
Le Stade Rennais a officialisé l'arrivée d'Ismaïla Sarr en provenance de Metz. À 19 ans, l'attaquant international sénégalais a signé un contrat de 4 ans en faveur des Rouges et Noirs. On parle d'un transfert de 17 millions d'euros hors bonus. Quant au vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, il a indiqué n'avoir conclu aucun accord, ni avec le Real Madrid, ni avec aucun club. En ce qui concerne le transfert de Kylian Mbappé, c'est l'autre feuilleton de l'été avec Neymar. Il souhaite prolonger le contrat de Mbappé.
Coup dur en tennis pour Djokovic.
Novak Djokovic a annoncé à Belgrade qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une blessure persistante à un coude. Dans une déclaration diffusée sur son compte Facebook, le tennisman a expliqué avoir pris cette décision de ne plus jouer aucune compétition ni aucun tournoi jusqu'à la fin de cette saison 2017. Âgé de 30 ans, Djokovic, numéro 4 mondial, ne participera donc pas à l'US Open à la fin de l'été ni à la demi-finale de Coupe Davis contre la France. Ce sera mi-septembre.
Merci Nicolas.
Ramassage des ordures, les citoyens doivent-ils participer? Telle est la question posée ce soir dans À votre avis. Déchets qui s'accumulent sur les trottoirs, rues insalubres. L'État est certes responsable, mais les riverains n'ont-ils pas un rôle à jouer? Qu'en pensez-vous? Morgane Guiriec en votre compagnie, réagissez en direct ce soir à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur Facebook, nous vous rappellerons. À ce soir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Bye.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour, et on commence par le Tchad, où le léger remaniement hier s'est traduit par le départ du ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social, Abdelkerim Seyd Bouch, qui a été remplacé par Mahamat Adef. Sous M. Bouch, l'intersyndicale avait quitté la table des négociations, estimant que ses préoccupations ne sont pas prises en compte. Timothée de Normay a joint Djamena Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
Le Premier ministre avec son président ont décidé de changer leur ministre. On ne connaît pas pourquoi, mais pour nous, le ministre de la Fonction publique, M. Bouch, est comme tous les autres ministres au Tchad. Il n'a aucun pouvoir. Il est parti, et un autre qui viendra, ça sera la même chose. On pense que pour lui, il n'y a pas d'impact là. Qu'il parte ou qu'il reste, c'est la même chose.
Quelle est la cause de votre départ?
Bon, la cause de notre départ, c'est parce que le gouvernement n'a pas tenu compte de notre avis en tant que partenaire social, en conclave dans le dialogue social. Et pendant que nous sommes en conclave, le gouvernement les versements des salaires par rapport aux effets financiers sur les avancements des fonctionnaires et également sur les frais de transport qui devaient être payés pour les travailleurs. Ça ne devait pas se faire comme ça. Pendant qu'on dialogue, il faut respecter l'autre et il fallait plutôt nous informer et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Quels sont les principaux problèmes sociaux de l'heure au Tchad?
Nous avons ce problème des travailleurs qui ont été victimes d'amputation d'une grande partie de leur salaire, de leur indemnité, et de ce que je viens de dire également. Et il y a un problème, effectivement, où toutes les administrations ne marchent presque pas parce qu'il n'y a pas d'argent, ou plutôt que l'argent a été orienté ailleurs par les principaux acteurs, le Premier ministre et le président de la République. Alors donc, lorsqu'il n'y a pas d'argent, les administrations ne marchent pas, l'économie est bloquée. Alors, tout cela fait qu'on sent qu'il y a un arrêt total du fonctionnement du Tchad.
Le gouvernement dit qu'il manque de ressources du fait de la chute des prix du pétrole brut. Qu'en dites-vous?
Non, mais ça, c'est des raisons qu'ils veulent trouver. La chute du pétrole, ça, c'est général. Il y a beaucoup d'autres pays aussi qui ont la même situation. Mais et les autres recettes, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi le gouvernement n'organise pas que les autres recettes rentrent bien? Il ne veut pas. Alors là, je pense bien que ce n'est pas ça, seulement. C'est vrai qu'il y a une réduction des puits de pétrole, mais il y a d'autres puits qui ont été trouvés, et donc il y a assez d'argent qui devait venir.
Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, joint en Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Centrafrique, deux nouveaux soldats marocains de la MINUSCA ont été tués hier à Bangassou, dans le sud-est du pays. C'est après une embuscade tendue par les groupes d'autodéfense assimilés aux milices anti-Balaka. Un autre casque bleu marocain a été tué deux jours plus tôt dans la ville. Félix Yepassi Zembro a recueilli la réaction du député de Bangassou, Fidèle Abouka.
La réalité est que ce conflit qui tend à perdurer, on essaie de le faire glisser sous l'étiquette d'un conflit interconfessionnel, alors qu'il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que les centrafricains, aussi bien chrétiens que musulmans, qui ont fui Bangassou, qui sont maintenant de l'autre côté du fleuve, qui se battent pas entre eux. Aussi bien même à Boba, ceux qui ont traversé, qui sont ensemble, qui participent ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans, mais il y a une mainmise entre ces gens qui tendent à faire montrer qu'il y a un problème interne. Quand je dis que c'est une instrumentalisation de la crise.
Qui sont exactement ces groupes d'autodéfense? On dit qu'il s'agit des anti-Balaka. Est-ce que c'est exact, cette information?
Quand on dit anti-Balaka, c'est un terme générique. Centrafricains, groupes de centrafricains prennent les armes pour une cause, pour une raison, on les appelle anti-Balaka. Mais eux-mêmes, ils se disent autodéfense. Ici, il y a une certaine force que l'État ne peut plus contrôler.
Mais qu'en est-il des éléments de l'UPC d'Ali Daras qui sévissent aussi actuellement dans la région?
Vous avez raison. C'est que le problème de Bangassou est particulier. de l'autodéfense. Mais quand vous sautez en amont et que vous allez vers Zélio, vers Mboki, là-bas, c'est l'UPC. Dans la basse coteau, c'est le Chir. Le cas de la basse coteau, c'est effectivement ce qu'on appelle les gens qui se reconnaissent comme les anti-Balaka, qui sont en train d'occuper contre l'UPC qui s'est affiché et qui règne en fait. Un seul exemple. Petite île qui s'appelle Congo à Alitao. Le chef du groupe qui s'appelle Azou et son fils ont refusé d'aller à leur rassemblement. Ils l'ont exécuté publiquement à Congo avant-hier.
Comment vit la population du Mbomo à l'heure actuelle?
En majorité, ils ont tous traversé. Ou bien ils sont dans la brousse, ou bien ils sont de l'autre côté du feu. Parce que le contingent marocain qui est là-bas, eux, quand ils passent, ils virent. Ils font des sommations inutiles et à chaque fois, la population est apeurée. Ce qui fait que maintenant, les gens préfèrent être le plus loin possible.
Fidèle Abouka, député de Bangassou.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Huitième jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, les artistes maliens sont entrés dans la compétition avec musique et marionnettes. Les Maliens n'auront toutefois pas de médaille en compte dans les disciplines culturelles. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les jeunes artistes maliens sont à Abidjan pour participer au 8e jeu de la francophonie, venus pour remporter des médailles. La compagnie Nama, dirigée par Yakuba Magasuba, est dans la compétition avec ses marionnettes géantes.
On veut montrer la population l'amitié, on se donne les mains. L'Afrique est dispersée. Vraiment, nous, on veut, le monde même est dispersé. On veut que tout le monde se donne, blanc, noir, on donne les mains pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on a dit l'amitié. L'amitié, c'est tout le monde.
Sur la scène, les défenseurs de la culture malienne à ces jeux de la francophonie ont montré des valeurs de la société malienne. Boukari Omotimbe, comédien.
Moi, ça se commence par les ethnies d'abord. Les Dogons, après les Dogons, il y a les Sénoufou, après les Sénoufou, les Bambara et les Sorey. Donc toutes ces ethnies, malgré leurs différences, les troupes autour d'une même table, les liens qui existent entre ces ethnies, voulu garder ces liens-là, c'est l'une des valeurs fortes même pour la cohésion sociale au Mali.
Salif Berthe, l'oiseau conteur, était sur la scène au palais de la Kil pour la compétition dans la discipline conte et conteur. Son spectacle a porté sur la vérité.
Ce thème parce que je me suis rendu compte que la vérité, c'est la seule chose qui peut changer ce monde.
Pour le moment, le Mali n'a eu aucune médaille dans les disciplines culturelles. Au même moment, le Sénégal, qui a connu un début difficile, se redresse. Alioune Diop, opérateur culturel sénégalais.
On était un peu dessus au tout début, puisque d'entrée de jeu, pour la jonglerie avec le ballon, la création numérique et le développement durable, on a été aussitôt éliminé. Au moment où je vous parle, on savoure notre première médaille. C'est la première médaille du Sénégal, une médaille de bronze obtenue par Mohamed Bogarsa pour le concours de nouvelles. Et pourquoi c'est une joie immense? Dans l'histoire des jeux de la francophonie, concernant la création artistique, c'est la première fois que le Sénégal gagne une médaille. On garde espoir pour la danse en attendant les résultats de demain.
Les artistes plasticiens maliens sont toujours dans l'attente de leurs œuvres, qui sont partout, sauf là où elles devraient être. Il s'agit de Mariam Ibrahim Maïga, artiste peintre, Moussa Kalapo, artiste photographe, et Elie Di Apilou Koudjou, sculpteur et installation. Et personne n'arrive à dire où sont passées les œuvres de ces jeunes talents maliens, alors que les œuvres ont été expédiées par DHL sur Abidjan depuis le 18 mai 2017. Abidjan, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, la CEDEAO et son objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad veulent faire baisser de moitié le taux de fécondité le plus élevé au monde. Pourquoi un tel projet? Quels enjeux économiques et sociaux? À l'horizon 2050, un continent en majorité composé de jeunes, quel avenir pour eux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Ici aux États-Unis, les personnes âgées sont en rapide augmentation, une croissance qui touche aussi les résidents venus de l'étranger. Dans des villes comme New York, les immigrés plus âgés seront majoritaires en 2020 et les services culturels ont du mal à suivre. Anastasie Tudiech.
Au centre d'Essie pour personnes âgées, les Bangladeshis du troisième âge peuvent faire des rencontres, prier, manger halal et faire du sport 3 fois par semaine. Les Bangladeshis font partie de la vague la plus récente d'immigration aux États-Unis et pour eux, la langue peut être une barrière, en particulier pour les plus âgés. Jahan Araramin est originaire du Bangladesh.
À mon arrivée ici, je ne connaissais pas un mot d'anglais, même maintenant. Je vais me coucher en me demandant comment je vais bien pouvoir communiquer le lendemain.
Christian González Rivera est chercheur au Centre pour un avenir urbain. Pour lui, l'isolement est le lot commun des personnes âgées migrantes, en particulier si les services culturels et leur langue d'origine sont rares.
On rencontre souvent des personnes âgées qui se sentent isolées parce que leurs petits-enfants ne parlent pas leur langue. Ils se retrouvent plongés dans une culture éloignée de la leur. Et leur rôle d'aîné ici, aux États-Unis, est différent de celui qu'il était dans leur pays d'origine.
La Maison Inde est une association laïque. Elle gère le foyer de personnes âgées et propose des programmes de lutte contre l'isolement sous toutes ses formes. Les doyens vivent en famille et une bonne partie n'a droit ni à la sécurité sociale ni aux allocations fédérales. Dilafroz Narghis Ahmed est directeur du Centre DESI.
Nos compatriotes sont plus conservateurs, religieux et très famille, alors ils veulent être en famille. Mais c'est très difficile de vivre avec la famille de nos jours parce que leurs enfants qui les ont amenés au foyer sont eux-mêmes sous le seuil de pauvreté.
Mais l'isolement social est aussi chose commune parmi ceux qui sont là depuis fort longtemps, comme les chats, arrivés d'Inde il y a 25 ans et maintenant citoyens américains. Pour Bharat Shah, participer aux cours donnés au foyer, puis enseigner, ont aidé à lui donner confiance.
Il faut se développer, apprendre à parler, à bien se comporter, les occuper, trouver ce qui marche et comment les divertir. Ça vous donne l'occasion de montrer votre talent aux autres.
Les Shah ajoutent que pour rester heureux, il faut être en bonne santé et rester occupé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Wish I could reach up and reset that sun. Reverse these wheels, go back and re-pick you up. I went by so fast, oh so sweet. Make me wanna remake a memory. Wish I had me a time machine. Giving us an encore. Re-spin you around, replay that sound of your napping when we hit the ground. I can see it now.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph. Vasco Volarich était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Et dans les programmes de VO Afrique, ne manquez pas RM Show tout à l'heure.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.